tous les deux fait paraître un ouvrage dans cette collection La philosophie en tout être, sur présence africaine. Donc, tout d'abord, Séverine Kodjo-Kambou, je vous présente. Vous êtes docteur en philosophie et rédactrice et chef adjointe des pages culture et médias de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Et vous avez publié en 2013 un livre intitulé Philosophie africaine au pluriel. Donc, vous parcourez les thèmes et les enjeux sur lesquels travaillent les principaux philosophes africains, que ce soit dans le monde anglophone ou dans le monde francophone. Et avec nous également, bien entendu, Souleymane Bachir-Diane, philosophe sénégalais, professeur à Columbia University, qui dirige la nouvelle collection, cette nouvelle collection, Philosophie en toutes lettres. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont les deux derniers sont Comment philosopher en islam. Et aux éditions en présence africaine, vous avez publié en 2013 L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique. Ma première question, Séverine Kodjo-Kambou, concerne d'abord l'histoire éditoriale de la maison présence africaine. Peut-être ceux qui ne la connaissent pas, situer son rôle dans la promotion des cultures africaines et quelle est l'orientation que peut vouloir signifier le lancement d'une collection dédiée à la philosophie.
Bonjour. Tout d'abord, pour l'histoire de présence africaine, c'est vraiment une histoire de cette maison d'édition qui est liée à la question de la philosophie en Afrique. Parce que, avant d'être une maison d'édition, Présence africaine était une revue qui était fondée par Amin Diop, qui a découvert. Alors, je parle sous le contrôle de Bachir qui connaît peut-être les dates mieux que moi, mais en 1945, il a été publié en néerlandais le livre de Placide Tempels, La philosophie bantoue. Et quand Amin Diop a découvert ce livre-là, il a voulu en publier une traduction en français et à ce moment-là, il a décidé de transformer la revue en maison d'édition pour pouvoir publier ce texte-là. Ce texte-là, c'est un ouvrage qui a été très important pour l'histoire de la philosophie africaine parce que pour la première fois, les termes philosophie et Afrique étaient alignés. C'est-à-dire qu'on était dans une période où concernant l'Afrique, les sciences qui se préoccupaient de l'Afrique étaient essentiellement l'anthropologie et l'ethnologie, qui étaient des sciences coloniales. Et à ce moment-là, on parlait de, concernant l'Afrique, de sociétés primitives. Et Tempels, qui était missionnaire au Congo belge, a voulu faire un ouvrage sur la pensée bantoue. Alors, l'ouvrage à la fois a été très mal reçu par un certain nombre d'intellectuels africains et en même temps très bien reçu, je vais vous expliquer pourquoi. Notamment, je pense à César qui n'est pas africain mais qui était très préoccupé par cette question-là, qui a tout de suite relevé l'intention de l'ouvrage qui s'inscrivait dans un objectif à la fois colonial, Il s'agissait d'expliquer ce qu'était la pensée des Bantous les missionnaires pour que la colonisation puisse davantage s'adapter aux sociétés colonisées. Je vous rappelle, on est en 45, donc on est près de 15 ans avant l'indépendance d'un grand nombre de pays francophones. La colonisation ne se fait pas sans heurts. Et à ce moment-là, Tempels propose d'avoir une colonisation peut-être plus humaine, en tout cas qui respecte davantage les populations colonisées. Et intellectuels africains ont vu au contraire comme une formidable avancée l'apparition de cet ouvrage-là parce que pour la première fois, comme je l'ai dit, on parlait plus de société primitive, mais on reconnaissait qu'il puisse exister de la philosophie, ça veut dire donc de la pensée. Donc quelque part, dire qu'il y a de la philosophie en Afrique, c'est réintégrer l'homme africain dans une humanité, ce qui avait été la colonisation et l'esclavage avant avec un long processus de déshumanisation. Suite à Tempels, un certain nombre de philosophes africains vont vouloir faire comme lui, présenter la pensée, la philosophie de leur peuple. Voilà une présentation assez rapide de l'impact que ce livre va avoir. Et suite à la publication de cet ouvrage-là et des ouvrages de philosophes qui s'inscrivent dans ce courant-là, notamment je pense à rwandais Alexis Kagame, dont l'un de ses ouvrages vient également d'être édité chez Présence africaine, s'engager tout un débat un peu plus tardivement dans les années 60-70 sur la philosophie africaine.
Oui, effectivement, très rapidement, en parcourant vos livres, en consultant les deux ouvrages, cet ouvrage sur la philosophie bantou de Placide Kapal semble incontournable dans le lancement de l'histoire de la philosophie ou des philosophies africaines. Et donc, il y a une perception ambivalente, spécialement après l'ère des indépendances. Vous l'évoquez aussi sur les mêmes achèvements dans votre propre ouvrage. Mais dans la collection que vous dirigez, vous êtes aussi très préoccupé par l'avenir. Vous regardez l'avenir et c'est aussi, vous évoquez cette question du temps et de l'avenir dans votre ouvrage. Par rapport à cette nouvelle collection, qu'est-ce que vous entendez faire et faire paraître prochainement? Qu'est-ce que vous comptez mettre derrière cette philosophie en tout cas?
Oui, alors cette collection, vous l'avez vue, elle a été ouverte, elle a été commencée, si vous voulez, et en fanfare, dirais-je, par le magnifique ouvrage de Séverine, Philosophies africaines au pluriel. Dans cette collection, vous l'avez également rappelé, j'ai moi-même publié L'encre des savants avec le sous-titre Réflexion sur la philosophie en Afrique. Mais ce n'est pas une collection qui va être uniquement consacrée à la philosophie en Afrique ou à des philosophes africains. C'est une collection de philosophie en général. Pour vous dire, par exemple, ce que j'ai en vue, les manuscrits que j'ai reçus et qu'on va programmer dans cette collection, il y aura une prochaine publication d'un philosophe du Togo, mais qui est une réflexion sur les sciences. C'est un manuscrit sur la philosophie des sciences. J'ai également en vue un texte, un ouvrage sur un philosophe qu'on avait un peu perdu de vue et dont il serait bon aujourd'hui qu'il refasse surface, c'est le philosophe Gaston Berger. Gaston Berger, connu comme étant le père de la prospective, compagnie du temps, et de cette discipline également qui est la caractérologie. Et voilà. J'ai passé commande à un philosophe de la ville de Rennes pour écrire sur Gaston Berger. D'ailleurs, Gaston Berger n'est pas sans lien avec l'Afrique parce qu'on ne le sait pas toujours, mais Gaston Berger a une grand-mère sénégalaise. Sa grand-mère est née à Saint-Louis. Non, en fait, sa mère. Lui-même, c'est lui qui est métisse. Femme saint-louisienne et le père français. Et il est le père de Maurice Béjart, ce que l'on ne sait pas non plus toujours. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'université, la deuxième université au Sénégal s'appelle Gaston Berger. Et c'est la raison pour laquelle, lors de son inauguration, Maurice Béjart était saint-louisien, le père de son père. Voilà les deux ouvrages qui sont en cours. Il y a un troisième consacré à un autre philosophe africain, parce que Séverine le montre, l'idée même de réfléchir à la philosophie sur le continent africain et à étudier les œuvres des philosophes africains, à regarder les termes sur lesquels les philosophes africains aujourd'hui se penchent, tout cela a été en quelque sorte inauguré après la Deuxième Guerre mondiale par l'ouvrage de Campbell. Mais d'une manière rétrospective, cela fait regarder le passé, cela fait remonter l'histoire de la pensée de la philosophie en Afrique dans le passé très loin. Ça peut commencer avec la Grèce ancienne, évidemment. Il y a eu au XVIIIe siècle cet auteur africain, Guillaume Amou, qui est un Ghanaïen qui a été élevé en Allemagne, qui a grandi en Allemagne, qui a fait de la philosophie, qui a été professeur de philosophie en Allemagne et qui a écrit un ouvrage également consacré à la réflexion sur la dualité de l'âme et du corps. Et donc, Guillaume Amou a écrit cet ouvrage-là. J'ai demandé à un ami philosophe également de me donner pour la collection un manuscrit sur Guillaume Amou, où il ne se contentera pas du discours habituel sur amour. En général, quand on parle d'amour, on s'extasie devant le fait que voilà un noir ghanéen qui a été professeur de philosophie en Allemagne, etc. Au lieu de se pencher sur ce qu'il a écrit. Parce que ce qu'il a écrit a son intérêt propre. Il a écrit cela dans le contexte de la philosophie de l'Allemagne de son époque, c'est-à-dire une philosophie qui était post-cartésienne, qui réfléchissait à la dualité de l'âme et du corps telle qu'elle avait été mise en place par Descartes. Et il est la réflexion de son époque. Cet ami qui est cartésien, je lui ai demandé donc d'étudier l'œuvre en tant qu'œuvre au lieu de se pencher sur la couleur de peau de son auteur. Voilà un peu la programmation dans les deux années qui viennent de la collection, et ça vous donne une idée de ce que l'on veut faire avec cette collection, la philosophie, entre autres.
Pour en revenir, donc, on a évoqué cet ouvrage un peu pionnier qui rapproche la traverse philosophique et l'africanité. Et vous avez développé dans votre ouvrage un certain nombre de courants. Vous avez explicité, comme dans les années 60, à l'ère des indépendants, l'émergence d'un certain nombre de courants. On parle d'ethnophilosophie, le rapport ambivalent à l'anthropologie, une anthropologie qui ne s'est pas encore débarrassée de ses tropismes coloniaux. Vous évoquez dans le monde anglo-saxon la sage philosophie, la philosophie sagacity. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces différents courants?
Oui, alors, suite à l'ouvrage de Darpels, comme j'en ai très rapidement parlé tout à l'heure, un certain nombre de philosophes africains vont se proposer de présenter la philosophie de leur culture. Et un certain nombre d'ouvrages vont donc être réalisés pour présenter, par exemple, quelle est la conception de l'âme chez les Dogons, de Dieu chez les Akans, etc. Ce faisant, il est souvent suggéré que dans ces cultures, il y a une philosophie qui existerait en tant que telle et qui ne serait pas forcément l'œuvre d'un individu en train de philosopher qui mène une réflexion. Des philosophes africains comme Roland Tangier, qui est béninois, ou le Camerounais Fabien Ibossibolaga, vont être très critiques par rapport à ce travail de présentation d'une philosophie existant en tant que telle, en disant la philosophie, pour qu'elle ait lieu, c'est une réflexion qui se retourne sur elle-même, qui a conscience d'elle-même, et on ne peut pas faire de la philosophie sans le savoir. Et ce qu'on a là, ce sont des ouvrages d'ethnophilosophie, c'est-à-dire des ouvrages ethnologiques à prétention philosophique. Donc il va s'avancer à partir de ce moment-là tout un débat pour savoir ce que doit être la philosophie. Et on est dans les années 60, 70. Alors il y a une question politique très importante aussi, c'est que c'est une période où se construisent des nations africaines. C'est une période aussi où on veut construire un panafricanisme. Et quelquefois, la philosophie va être utilisée de manière politique pour penser la question de l'identité africaine. Qu'est-ce que c'est que d'être africain dans les années 60, 70, quand il y a des nations particulières à construire, quand il y a un panafricanisme à construire là. Et il y a une différence, je crois, entre la réflexion chez les philosophes africains anglophones et la réflexion chez les philosophes francophones, c'est que ce que j'ai pu constater, c'est que chez les francophones, on est très énergique et très suspicieux, si je puis dire, par rapport au travail ethnologique et anthropologique. Parce que il y a eu vraiment une utilisation de ces sciences au service de la colonisation, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire des études sur les sociétés à coloniser, il s'agissait de connaître les sociétés que l'on voulait coloniser pour adapter l'outil colonial, pour avoir une colonisation efficace. Et le courant que défend Jean-Claude Bollard-Tangy est très critique par rapport à cet usage philosophique dans le monde anglo-saxon, c'est un petit peu plus différent, c'est-à-dire qu'on accepte davantage l'idée qu'il puisse y avoir une philosophie ethnique en quelque sorte. Et parce que ce travail-là va se faire aussi surtout à partir du travail sur la langue, c'est-à-dire dans l'ère anglophone, la philosophie analytique est très importante. Et un philosophe comme le Ghanéen, a beaucoup travaillé à partir de la langue pour savoir ce que peut être une philosophie qui serait à quand. Et par exemple, en essayant de traduire un certain nombre de problématiques ou de concepts philosophiques qui existent par exemple dans la philosophie occidentale dans sa langue maternelle à quand, il se rend compte que quelquefois l'exercice de la traduction pose problème. Par exemple, sur la question de la fameuse question philosophique du dualisme de l'âme et du corps, quand il essaye de traduire le mot âme, soul en anglais, en latin, il se rend compte que le mot qu'il doit utiliser est un mot qui suppose forcément que ça est de la matière, que ça relève de la matière. Il n'y a pas de mot utile pour exprimer directement une entité comme ça qui serait non matérielle. Et donc, la conclusion à laquelle il aboutit, c'est qu'il y a des problèmes philosophiques qui ne sont pas universels, même si tout un chacun peut les comprendre, mais qui dépendent de la langue dans laquelle ils sont exprimés. De la même manière, sur la question de la vérité comme correspondance, il se rend compte que l'expression ce qui est et l'expression ce qui est vrai se traduit exactement de la même manière en Lacan. C'est exactement la même expression. Donc à partir de là, il invite à réfléchir, à philosopher dans la langue Lacan et cet exercice de traduction, de réflexion dans sa langue maternelle l'amène à montrer qu'un certain nombre de problématiques philosophiques que l'on aurait tendance à considérer comme universelles en Occident, en fait, sont liées à certaines langues dans lesquelles elles s'expriment. Et à partir de là, il va essayer d'avoir une réflexion à temps, si je puis dire, sur la pensée philosophique.
Moi, j'ai été assez sensible dans votre regard assez critique. Je noterai une certaine différence de perception. Par exemple, je m'évoquerai la pensée de Senghor, mais par exemple, pour revenir à la question du rapport philosophie-anthropologie, vous mettez en évidence que, bien entendu, l'anthropologie, elle est toujours au service d'une sorte de culture de la domination. Et moi, je suis sociologue et aussi anthropologue, et moi, ce qui me fascine, c'est ce qu'on peut faire avec l'anthropologie, justement pour une anthropologie que Ballandier avait, le grand africaniste, avancer l'idée d'une anthropologie du détour ou l'anthropologie de nous-mêmes, l'anthropologie des sociétés occidentales. C'est très intéressant d'utiliser ce savoir. Et par exemple, en Europe, on est assez sensible à un phénomène qui peut-être est un peu proche de l'ethnophilosophie. Vous l'évoquez dans votre livre, c'est l'ethnopsychiatrie. Georges Desvreux, tout ce travail autour de Tobin Nathan, le savoir sorcier, l'idée de recourir aux méthodes de guérison traditionnelles, ça a rencontré un certain écho, et moi aussi je dois avouer que j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Mais donc, je note aussi que vous avez un regard intelligent et critique sur cette notion d'ethnopsychiatrie, alors j'aimerais bien que vous en parliez, ça a quand même un rapport avec la philosophie.
Oui, ce qui a souvent été reproché à l'anthropologie, c'est que souvent c'est un regard occidental sur l'Afrique et que l'homme africain n'est pas sujet mais objet. C'est-à-dire qu'on discute, on parle de l'Afrique, on parle des Africains, on ne parle pas avec eux. Et ça, c'est un reproche qui a été fait dans les années 60-70 par un philosophe africain. D'ailleurs, Ballandier, effectivement, il était très critique par rapport à l'histoire de l'anthropologie et lui, il parle de sociologie. En fait, le problème, c'est que souvent, on a créé une science pour parler de l'Afrique. Et la question était pourquoi est-ce que le travail qui est fait sur l'Afrique ne ne s'appelle pas sociologie ou philosophie, mais anthropologie. Et là, on voit en fait que ces disciplines ne sont pas neutres. Il y a une espèce de hiérarchisation des disciplines qui ne dit pas son nom, comme s'il y a une prétention de la philosophie la philosophie, pendant très longtemps dans l'histoire occidentale, a été associée à l'Occident. C'est ce qui définit l'Occident. Et donc, il n'est pas possible de considérer qu'il puisse y avoir de la philosophie en Afrique. Alors, d'abord parce que ça remet en question aussi une certaine justification de la colonisation. Parce qu'on colonisait aussi, il y avait un devoir de civilisation que le colonisateur devait apporter en Afrique. Et si vous reconnaissez qu'il y a de la philosophie de la même manière que c'est ce qui a fondé la civilisation européenne, alors à ce moment-là, la justification idéologique de la colonisation ne tient plus. Donc il y avait un véritable, sur la question de la philosophie, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un véritable enjeu idéologique, un enjeu, un rapport de domination qui est derrière tout ça. Et puis, sur l'ethno-psychiatrie, effectivement, d'ailleurs, le philosophe camerounais Jean-François Vitrinal est très critique par rapport à l'ethno-psychiatrie, parce que ce qu'il reproche, c'est le fait de ne pas considérer le sujet africain justement comme un sujet, mais davantage comme un objet d'étude. Et finalement, on parle de l'autre sans lui donner la parole. Je crois que c'est ça le plus gros reproche qui a été fait.
Alors, Souleymane Bachir, s'il y a quelqu'un qui a été un acteur de la pensée africaine, c'est dès les indépendances, il était très très présent, une grande personnalité aussi politique, c'est Senghor. C'est un auteur sur lequel vous avez beaucoup écrit. Et je note aussi que cet auteur, en tant qu'acteur d'une pensée africaine, il a à la fois beaucoup fasciné, mais aussi, si j'ai bien compris l'ouvrage de Séverine de Roger Cambon, il a aussi agacé un petit peu un certain nombre de philosophes africains. Alors, en même temps, dans votre ouvrage, vous citez évidemment ce concept de négritude, c'est vraiment son logo. Je ne sais pas dans quelle mesure ce logo cache. On participe à une méconnaissance de la pensée de Senghor, parce que par ailleurs, je note que vous le citez longuement c'est effectivement une pensée très 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 très, très puissante. Et donc j'aimerais savoir comment faudrait-il comprendre à la fois la force, la puissance, la perspicacité de Senghor, et au fait, et comment faudrait-il comprendre aussi la réticence de certains Africains actuels qui sont aussi des penseurs.
Oui, alors, la première chose qu'il faut dire dès qu'on aborde la pensée de Senghor et de Césaire, dès qu'on aborde la réflexion sur ce mouvement à la fois littéraire, poétique, philosophique et politique qui s'est appelé la négritude, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'un mouvement. Et c'est très important de considérer la philosophie comme un mouvement, c'est-à-dire une pensée qui s'est déroulée dans le temps, qui a commencé dans les années 30, vers le milieu des années 30, et qui, au fond, a donné ses derniers textes simplement très tard, à la fin des années 80, jusqu'à la mort de Césaire. C'est vrai que les dernières années, il n'écrivait plus grand-chose. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est une pensée en mouvement, c'est-à-dire une pensée qui se réalise, qui se rectifie en avançant, qui connaît des contradictions, qui résout ces contradictions, certaines contradictions restent ouvertes. Si on aborde la négritude de cette manière-là, on la comprend mieux comme quelque chose qui se déroule dans le temps. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de la controverse qui a toujours accompagné la réflexion senghorienne. La controverse se focalise très souvent sur le premier article, le premier essai qu'il a écrit, qui date de 1939, qui s'intitule « Ce que l'homme noir rapporte ». Et c'est dans ce premier essai théorique, philosophique sur la négritude, qu'il a prononcé la fameuse formule qui fait scandale, « L'émotion est nègre comme la raison est hélène ». Mais quand on écrase tout le propos de la négritude sur cette expression-là, on rate deux choses. d'abord la signification réelle des mots qu'il emploie. Que signifie le mot émotion qu'il emploie là? Est-ce que cela signifie une sorte de partage de l'humanité entre une humanité qui serait une humanité de la raison et une humanité qui serait une humanité de l'émotion? C'est une question à poser. Mais surtout, surtout, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que de 1939 à 1987, je crois qu'il est la droite de la date de son dernier ouvrage, il a passé son temps à revenir sur cette formule, à redéfinir son les termes qui en sont constitutifs, à réfléchir sur ce que signifie l'émotion, etc., etc. Donc si on considère cette pensée dans son déroulement dans le temps, c'est là qu'on est davantage en mesure de la comprendre. Ça, c'est un premier aspect. Donc, toujours, lorsqu'on réfléchit sur l'individu, c'est dire, on réfléchit sur un mouvement de pensée, c'est-à-dire sur une pensée en mouvement, et non pas une pensée qu'il faut figer dans un certain nombre de formes. Première chose. La deuxième chose, le grand reproche fait à Senghor également, et au mouvement de l'individu, a été que c'était une philosophie essentialiste et racialiste, c'est-à-dire une philosophie qui se donne une essence de ce que c'est être africain, une essence qui serait totalement intemporelle, qui ne changerait pas, et qui considérerait par exemple que simplement parce que des gens partagent la même couleur de peau, les mêmes apparences physiques, ces gens partageraient également d'avoir une même manière de penser. Est-ce que c'est une pensée qui, à ce moment-là, ignorait l'histoire? Parce qu'après tout, aujourd'hui, en un temps où les études dites de la diaspora, les études diasporiques se sont développées, qu'est-ce qui ferait que les cultures transplantées d'Afrique, les gens transplantés d'Afrique, les populations qui se sont retrouvées dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qui se retrouvent aujourd'hui en Europe, qui vivent donc des circonstances historiques et culturelles totalement différentes, pourquoi est-ce qu'on voudrait à tout prix les tenir ensemble à l'intérieur et leur accorder une sorte d'essence commune? Là encore, quand on fait ce reproche d'essentialisme à la dignité, on rate les contradictions profondes qu'il y a dans ces pensées. C'est vrai que le langage est souvent un langage essentialiste. Mais il faut faire attention en même temps, une fois qu'on a dit cela, à un langage de l'hybridité, à un langage de la transformation, à un langage qui finit au bout du compte par déracialiser totalement la notion de l'écriture. Au bout du compte, quand on regarde par exemple ce que Senghor écrit sur les influences qui ont été les siennes, sur le fait que sa philosophie s'est constituée dans le dialogue avec la philosophie de Bergson, qui n'était pas noire à ce qu'on sache. En quel point, par exemple, sa poésie elle-même est redevable de Rimbaud, est redevable également du verset chez Paul Claudel, etc., et qu'on se rend compte que les auteurs de la négritude, Césaire comme Senghor, appelaient de manière qui était à la fois une manière de présenter, mais également qui avait le sérieux de théorique de la conversation philosophique et politique, insister sur le fait que Rimbaud pouvait être considéré comme un nègre, que Paul Claudel, pour ces mêmes raisons, pouvait être considéré comme un nègre. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours de la négritude n'a pas arrêté lui-même de déconstruire son propre essentialisme. Il y a l'essentialisme, mais il y a également tout le propos de la négritude qui est une déconstruction permanente de cet essentialisme et finalement qui est une sorte d'hymne de l'hybridité, de l'hybridation et du métissage. Du métissage non pas accidentel parce que deux individus d'ethnicité ou de races différentes se sont rencontrés et ont fait des enfants, ça c'est le métissage biologique, mais un métissage qui est un devoir de métissage. Senghor a un propos que je souligne souvent chaque fois que je parle de lui. Il dit chacun doit être métisse à sa façon. Doit être métisse, c'est un devoir, c'est presque une éthique du métissage. C'est un devoir de métissage, un apprentissage permanent de notre propre décentrement, savoir introduire l'altérité en nous-mêmes, savoir comprendre que le plus court chemin, en général, peut-être, de moi-même à moi-même, c'est-à-dire quand il s'agit de saisir ma propre identité, c'est non pas de m'enfermer dans cette identité, mais au contraire de la regarder du dehors, en quelque sorte. savoir me décentrer, me mettre dans les chaussures de l'autre, pour traduire littéralement une expression américaine, eh bien, ça aussi, c'est une des leçons de la négritude. Le devoir de métissage qui est une posture éthique dans le monde et qui n'a rien à voir avec la simple hybridité qui est, elle, un état de choses et un état de fait. Donc ça, c'est la deuxième critique portée par la négritude, qui est la critique d'essentialisme. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte que la négritude elle-même y répond. C'est-à-dire que le propos qui consisterait à dire « Ah oui, la négritude a été un essentialisme nécessaire probablement pendant la période coloniale où il s'agissait de faire pièce à l'impérialisme et au racisme, mais maintenant on a dépassé ce stade essentialiste avec un éloge de l'unité, un éloge de la créolité, comme les écrivains de la créolité ont écrit, etc. » En fait, c'est mal comprendre la négritude elle-même. Elle-même est un éloge de la créolité, elle-même est un éloge de l'hybridité. Et quand on lit attentivement les textes, on s'en rend compte davantage. Troisième et dernier aspect de la critique qui a été portée, cette fois-ci de manière plus spécifique, contre Saint-Gobe, c'est une critique qui est venue de la gauche de Saint-Gobe, pour ainsi dire. C'est la critique qui a été pendant très longtemps la critique des marxistes et communistes, de l'opposition de gauche à Saint-Gobe, particulièrement au Sénégal, mais pas seulement. Et ça, c'est une critique qui s'adresse à ce qu'il a considéré être le prolongement politique de la négritude, qui était une réflexion sur les voies africaines du socialisme. Saint-Gobe estimait qu'il y avait quelque chose de profondément universel dans le marxisme, et pour lui d'ailleurs, c'était pas le Marx du capital, c'était davantage celui qu'on a appelé le jeune Marx, c'est-à-dire le Marx des écrits de 1844, les manuscrits, les fameux manuscrits de 1844, où Marx tient un langage plus moral, un langage éthique, un langage de la révolte morale, si vous voulez, contre ce que le capitalisme pouvait avoir, pouvait comporter d'aliénant. Le Marx qui écrit contre le travail aliéné, le Marx qui estime que la révolte contre le capitalisme du 19e siècle dans sa brutalité, dans sa violence, était un capitalisme qui séparait l'être humain, l'homme, de la nature, et qui séparait l'humain de sa propre humanité également. C'est ce langage moral que Marx a abandonné après les manuscrits de 1844, mais c'est ce langage moral qui précisément intéresse quelqu'un comme Saint-Gobe, qui estime que le socialisme se trahit s'il n'est pas d'abord et avant tout une exigence éthique et une exigence spirituelle. C'est-à-dire que Saint-Gobe est profondément catholique et pour lui, au fond, le combat contre l'aliénation, c'est une manière pour lui de retrouver le christianisme dans son jaillissement premier, le christianisme dans les valeurs humaines fondamentales et fondatrices de cette religion. C'est la raison pour laquelle une des formes d'opposition à Saint-Gobe est venue de l'opposition sur sa gauche qui estimait que le marxisme était au fond une sorte de science et que de la même manière que vous n'aviez pas une mathématique africaine et une mathématique chinoise, vous ne pouviez pas avoir un socialisme africain ou un socialisme d'une autre nature. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle maintenant que le socialisme dit réel s'est effondré, il est devenu plus facile de lire ce que Saint-Gobe cherchait derrière cette idée de socialisme africain. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il y a également Nyerere en Tanzanie, il y a Jomo Kenyatta au Kenya, et d'ailleurs la proximité qu'il y a entre sa pensée et celle de Nyerere tient peut-être aussi au fait que tous les deux, étant des catholiques, avaient cette sorte de vision d'un socialisme qui serait un socialisme éthique et qui serait un socialisme de l'humain, débarrassé de tout ce qui l'aliène, c'est-à-dire aussi bien les forces de dissociation et de dispersion et de division qu'il voyait dans le capitalisme, que tout ce qui retient l'homme, tout ce qui tire l'homme vers le bas, au lieu de lui laisser sa liberté créatrice.
Oui, vous avez évoqué la question de la rationalité, de la raison et de la rationalité, et nous avons tous été aussi attirés par un essentialisme européen de la raison. Pendant des siècles, on a pensé que la raison était toute bonne, toute pure, et que l'on découvre aujourd'hui, et parfois grâce aux sciences exactes, que la science, que la rationalité, il y a des formes de rationalité, c'est des rationalités du mélange, qu'il y a du mythe, qu'il y a de la magie dans la raison la plus scientifique. et à l'inverse, il y a de la rationalité dans le mythique, dans le religieux et dans des dimensions plus traditionnelles. Je suis très, très influencé, moi, par la lecture d'un auteur qui est un historien, mais qui est aussi puissamment philosophique, c'est Achille Mbembe, sa critique de la raison nègre. Et donc, c'est vrai que je cite comme ça, je pense à lui maintenant, pour moi, c'est un des penseurs majeurs, non seulement de l'Afrique, mais on est un peu dans une phase où on n'arrive pas à penser l'humanité une et plurielle. Et justement, des personnalités du Sud qui ont intégré tout le savoir occidental, mais qui proposent un autre, qui sont porteurs d'une autre humanité, d'un passé, qui ont un regard post-colonial, post-occidental, peuvent nous aider à penser cette prochaine civilisation qui sera mondiale. La négritude évoque des aspects un peu négatifs. Vous évoquez une notion africana. L'idée qu'il y a une africanité continentale et diasporique, j'aime bien aussi cette notion qui est peut-être plus englobante et peut-être prêtée moins à certaines mauvaises interprétations. On a évoqué des intellectuels de l'Afrique d'hier ou des début des indépendances. Alors Séverine, qu'en est-il des penseurs actuels du monde actuel et de demain?
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire
à
l'instant. Ce qui est très important aujourd'hui avec le travail que font les philosophes africains contemporains, c'est que c'est ça, je pense, la grande différence avec le savoir africaniste des années 50-60, c'est que ces philosophes, non seulement ils ont une culture, une connaissance de la philosophie telle que nous la connaissons aujourd'hui en Occident, mais en plus ils ont un bagage culturel autre qui est le leur, qui est celui de leur propre culture. Et souvent, aujourd'hui, il faut le reconnaître aussi pour des questions quelquefois politiques, mais souvent économiques aussi, ces philosophes aujourd'hui enseignent soit en Afrique, soit maintenant, pour beaucoup d'entre eux, aux États-Unis. Et l'inscription de ces philosophes-là dans une contemporanéité qui se passe à la fois aux États-Unis, quelquefois en France, mais beaucoup moins, et en Afrique, fait qu'ils ont un regard totalement global sur le monde. Et j'utilise une image dans mon ouvrage qui est que aujourd'hui, lire de la philosophie africaine, c'est relire la philosophie occidentale telle qu'on la connaît. Parce que l'usage que font les philosophes africains de la philosophie occidentale, la lecture qu'ils en proposent, où souvent, je dis qu'en fait, ils décentrent certaines problématiques occidentales pour les déplacer, pour les reterritorialiser dans un contexte politique, culturel, économique ou autre. En fait, lire les réalités africaines en utilisant aussi bien des outils intellectuels occidentaux et africains amène à repenser la philosophie de manière générale. Et nous, en tant que lecteurs occidentaux, ça nous amène à voir quelles peuvent être les limites de la philosophie occidentale. Et par exemple, le travail que fait Jean-Geoffroy Dumas sur sa réflexion sur la justice est très intéressant, je trouve, parce que à la fois il s'appuie sur des philosophes de Ricoeur pour penser ce que peut-être le juste, et en même temps il s'appuie sur l'expérience de la Palame, qui n'est pas du tout, comme on pourrait le croire ici, une discussion sans fin qui part dans tous les sens, mais qui est très structurée avec un mode de prise de la parole qui obéit à un certain code l'amène à réfléchir sur ce que c'est que aussi de prendre la parole en public, comment l'espace, comment est-ce qu'il peut y avoir une éthique de la discussion, comment l'espace public peut être un endroit où la voix, la parole circule, comment est-ce que la palabre justement peut être un instrument de réflexion à ce que c'est que prendre une décision juste, en mélangeant à la fois des références africaines et des références occidentales, mais sa propre réflexion sur ce que c'est que la justice, sur ce que c'est que donner la parole, sur ce que c'est que une justice juste, parce que souvent, dans les sociétés africaines contemporaines, on a plusieurs droits qui se disent. Il y a un droit qui est un héritage du droit colonial, il y a un droit qui est un héritage du droit coutumier, et puis par-dessus tout ça, il y a le droit international qui se dit aussi. Ce qui fait qu'il y a différents droits avec des origines et des provenances différentes qui font que parfois le justiciable se sent un peu perdu et ne se reconnaît pas dans le droit qui se dit. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les populations se reconnaissent dans la justice qui se dit dans leur propre pays? Comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier cette justice-là et ne pas avoir l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur à leur culture et qui s'impose à eux? Donc, il y a des réflexions comme ça qui sont, je trouve, très intéressantes pour nous. Et puis, par exemple, dans son ouvrage sur la parabole, il revient sur fait que dans certaines sociétés africaines, la notion d'enfermement et d'emprisonnement n'existait pas. Et quand on cherche aujourd'hui à réfléchir dans nos propres sociétés occidentales sur ce que pourrait être une justice où on aurait un palliatif au tout carcéral, je crois que quelquefois, justement, passer par ce que les autres ont à dire et à nous apprendre permet à nous de nous enrichir et d'avoir une réflexion ensemble sur le monde dans lequel nous vivons, puisque après tout, ce que nous montre ces philosophes africains, c'est que l'Afrique, ce n'est pas un continent à part, mais c'est un continent qui, historiquement, a toujours été en relation avec et l'Europe, et l'Asie, et les Amériques, puisque nous vivons dans un seul et même monde.
Un seul et même monde, et avec, selon peut-être une perspective, une vision perspectiviste à la Leibniz, peut-être, d'où l'importance de l'idée de la traduction. Je vois que c'est quelque chose, un thème très fort dans vos deux ouvrages, cette idée de l'échange avec l'arabo-berbère, avec les mondes indiens, avec les pensées européennes. Il y a eu un discours de fête de Nicolas Sarkozy en février 2007 qui parlait sur le rapport au temps des Africains qui était insuffisamment ancré dans l'histoire. Il y a des lieux communs sur l'idée que, la philosophie ne peut exister que par écrit, par des gens qui sont en costume cravate dans des bureaux et qui écrivent une pensée écrite. Alors que j'aimerais qu'on réfléchisse sur l'idée de la traduction, de la transcription avec la perdition et la reproduction du message, du passage de l'oralité à l'écriture. Et parce que c'est un vrai débat philosophique, ça, c'est pas, pour Socrate, l'écriture c'était la perdition, passage à l'écriture. Et il y a eu, avec la révolution de l'imprimerie, la découverte des bibliothèques, Leibniz qui s'affolait de voir une concentration de livres, que c'était là aussi un risque. Aujourd'hui, nous avons aussi des prophètes de malheur qui nous disent que le numérique, l'entrée dans le numérique est une va entraîner des peurs. Effectivement, il y a peur quelque chose chaque fois. L'oralité est plus riche au niveau de l'expression que l'écriture. L'écriture favorise peut-être quelque chose de plus méditatif, de plus personnel. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une phase de numérique. Et j'aimerais savoir, de ce point de vue-là, c'est vrai que question philosophique, vous avez évoqué une phrase dans votre livre, « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Et philosopher, par exemple, je prends l'exemple d'un penseur comme Bruno Pacha, dit « c'est faire vibrer la bibliothèque, c'est la faire résonner ». Et cette bibliothèque, elle peut être la bibliothèque de Rabelais, la bibliothèque latine, la bibliothèque grecque, la bibliothèque islamique. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque africaine? Comment la possède-t-on? Comment en est-on possédé? Comment on y accède? C'est-à-dire, tout philosophe doit quelque part maîtriser la bibliothèque, maîtriser le savoir des anciens. Alors, comment, justement, quand on dit chaque vieillard qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle, comment préserver cette bibliothèque africaine?
En comprenant une chose, me semble-t-il, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de préservation, mais il s'agit de faire vivre et de faire vivre en mouvement. C'est-à-dire que derrière le mot de préservation, il y a un aspect de conservatisme, il y a un aspect quelque peu muséal. Si on dit, par exemple, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, et si on se précipite à ce moment-là pour enregistrer les vieillards afin d'extraire de leur mémoire ce qui s'y trouverait conservé, on a encore une idée tout à fait fausse, à mon avis, de ce que c'est qu'une bibliothèque. Donc quand mon ami Bruno Pinchard dit justement qu'il faut que la bibliothèque vive, c'est qu'il faut qu'elle vive et qu'elle soit une bibliothèque en mouvement et en mouvement vers l'avenir. Autrement dit, Ampateba, à qui on doit cette phrase qui est presque passée en proverbe aujourd'hui, il a fait un travail d'écriture de ce qui était, de ce qui existait sur le plan oral. Mais faisant ce travail, il n'a pas simplement transcrit. Son œuvre n'est pas une œuvre qui serait l'équivalent de ce que fait un magnétophone qui enregistre quelque chose dans sa fixité et qui figerait cette chose à jamais, comme s'il s'agissait de déposer un objet dans un musée. Il a donné une nouvelle vie à cette oralité en la faisant passer à l'écriture et à l'écriture en français. Cette écriture en français, c'est une nouvelle vie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la transcription de l'oralité, c'est véritablement la mise en mouvement de cette oralité dans une vie qui sera une vie autre. Vous prenez un exemple très précis. Il prend un récit traditionnel qui est Kaïdara, et il le transcrit, mais il le transcrit en le recréant en français. Et ensuite, Kaïdara, aujourd'hui, est joué et théâtralisé dans beaucoup de scènes dans le monde. Et chaque fois que quelqu'un met en scène Kaïdara, ce quelqu'un recrée Kaïdara. Ça veut dire que Kaïdara n'est pas une réalité figée, c'est une réalité en mouvement. Et le mouvement qui est un mouvement de traduction est absolument important. Notre relation à notre propre passé, c'est une relation de traduction. Nous sommes toujours en train de traduire le passé et de le recréer au présent et de le projeter vers le futur. Ce n'est pas une réalité figée où il s'agit de se fixer sur ce qu'il faut garder en mémoire. On a dit par exemple que l'oralité, la philosophie orale était une impossibilité parce que dans l'oralité, la mémoire est tellement préoccupée de rétention et de préservation qu'elle n'a pas justement cette dimension critique de retour, de faire retour sur soi-même. Or c'est faux. Si vous regardez les textes oraux, vous pouvez voir dans ces textes oraux eux-mêmes une forme d'évolution qui est une forme de critique de soi. Il arrive que des textes oraux soient une reprise critique d'autres textes oraux, et c'est donc une réalité toujours en vie, une réalité toujours en mouvement. En mouvement, comprendre la bibliothèque africaine, c'est comprendre que toutes les bibliothèques au monde ne vivent que si elles sont remises en mouvement. Si on se contenter de garder des ouvrages dans une bibliothèque comme on garde des objets dans un musée, où il s'agit encore une fois de les visiter et ensuite de sortir pour aller vers la vie réelle, ça ne servirait strictement à rien. Un livre n'existe que lorsqu'il est ouvert, lorsqu'il est lu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je prends un aspect de ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant que la traduction, c'est aussi bien la traduction par exemple, de la philosophie grecque dans le monde islamique, et cette traduction de la philosophie grecque dans le monde islamique a également intéressé l'Afrique. Puisque l'Afrique n'est pas un continent de l'oralité, ou ne l'est pas toujours, ne l'est pas partout, ne l'a pas été de tout temps dans son histoire, il y a une histoire également de l'érudition écrite en Afrique, il y a une histoire de la philosophie en Afrique qui est une histoire écrite, puisque, encore une fois, des noms comme Platon, Plotin n'ont pas commencé à exister en Afrique avec l'arrivée des Européens, mais ont commencé à exister avec l'islamisation du continent. Parce que la civilisation islamique était également une civilisation qui était héritière du monde grec et qui était héritière du monde de la philosophie grecque. Donc, tous ces manuscrits qui existent dans des centres comme Tombouctou, comme Djenné, qui existaient comme dans un centre comme Kochi au Sénégal, il s'agit aujourd'hui de les traduire, de les transcrire, de les étudier, de réfléchir avec eux et non pas de les garder comme des objets muséaux. On s'extasie aujourd'hui devant les manuscrits de Tombouctou, mais plutôt que de s'extasier, il faut commencer à les remettre en circulation, ces manuscrits-là. Et c'est la même chose pour la mémoire vivante. Une mémoire est vivante dès lors qu'elle est toujours transmission, transformation, qu'elle est en mouvement et qu'elle vit de sa propre vie et non pas qu'elle reste quelque chose de vide, de figé, à préserver et à contempler.
Merci Bachir. Céline, je vais vous laisser le mot de la fin, votre certificat approche à la fin et j'aimerais savoir, on évoque maintenant l'histoire globale, une histoire vue par les différents peuples, les études postcoloniales, malgré les débats que s'est soulevé dans ce moment en Europe. Et donc pour l'avenir de la philosophie, on a évoqué les nouvelles capitales de l'intellectualité africaine, ce sont pour beaucoup c'est dans les universités américaines. Qu'est-ce qu'on pourra, selon vous, apprendre? Qu'est-ce que les philosophes africains pourront apporter comme message par rapport pour l'avenir de la philosophie dans des sociétés post-modernes, un peu désenchantées et en perte de repères?
D'abord, c'est ce que je pense qui est important, c'est que justement c'est ce qui s'inscrive dans plusieurs cultures à la fois et qu'ils arrivent à en faire une culture à eux. Et je crois que la leçon qu'ils nous apprennent, c'est que nous sommes libres d'accepter notre héritage ou pas. Nous sommes libres de nous construire avec la culture, les cultures que nous avec lesquelles nous choisissons de cheminer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ils amènent à réfléchir à l'identité, non plus en termes d'essentialisme, non plus en termes d'identité figée, d'identité qui nous exclurait le reste de l'humanité, mais au contraire à nous montrer que c'est exactement ce que disait Suleiman Machiavelli tout à l'heure, on peut se construire en empruntant à l'autre. Pour construire sa propre identité, on peut passer par l'autre et ça nous inscrit pleinement dans l'humanité. Et je crois que c'est un discours qui est très important aujourd'hui parce que ça veut dire que les sociétés n'ont pas nécessairement l'obligation de se construire les unes contre les autres. Il est possible de se construire ensemble, les uns avec les autres, et que nous pouvons choisir ce qui nous intéresse, ce qui nous semble nécessaire, utile pour nous construire nous-mêmes. Et puis, je crois que ce qui est important, et ce qui est maintenant une nécessité, une exigence fondamentale, c'est que les universités, je dirais essentiellement en Europe, et puis surtout en France, s'ouvrent enfin aux autres, ce qui est moins le cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, la philosophie africaine s'enseigne davantage en France, elle ne s'enseigne pas. Et je pense que c'est important de faire cette ouverture à l'autre, non pas parce que c'est une obligation d'emprunter à l'autre pour se construire, mais c'est une possibilité qui nous est offerte. Et puis discuter avec l'autre, c'est pas nécessairement être d'accord avec lui, mais au moins c'est écouter ce qu'il a à dire, et puis discuter, débattre, et puis peut-être que ça lui apportera quelque chose, tant mieux. Peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est un risque à prendre parce que ça peut nous apporter quelque chose de bénéfique. Et puis, je pense qu'il est extrêmement urgent, en tout cas en France, que les universités françaises et surtout les départements de philosophie s'ouvrent enfin aux philosophies chinoises, aux philosophies japonaises, aux philosophies coréennes, aux philosophies africaines. Philosophie islamique, enfin le monde de l'islam aussi, parce que ça veut dire que là, l'université sera dans sa fonction première, qui est celle de l'universalité et de s'ouvrir au monde.
Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Bachir. C'est sur cette note tournée vers la lumière s'achève cette petite conversation créatrice. Et j'invite les auditoires à vous rejoindre au stand de dédicacer vos livres s'ils veulent poursuivre la discussion avec vous, s'ils ont des questions. Merci à tous et à la prochaine.
Merci. Le débat, pas le j'ai terminé le débat juste à la seconde où je me réjouissais enfin d'être arrivé de pouvoir vous entendre.
Alors, le prochain débat sera un des auteurs, un auteur. C'est la rencontre avec Sofia Nadjan, qui est le directeur des éditions Tamzak, qui a publié un roman de Kamel Daoud qui s'appelle Merce Pantanté. Donc, tout le monde connaît Merce, c'est le héros de la vie. Mais ça, c'est une question pour Algérie.